Moi, je m'appelle Ceren Öztürk. Actuellement, j'habite en Turquie. Alors, on va faire simple, je suis doctorante. Je fais une thèse sur l'immigration en Turquie, sur l'immigration des subsahariens. Et en même temps, depuis à peu près un an, j'ai commencé à travailler sur la question de l'immigration en Turquie. Et les 4 derniers mois, je les ai passés dans une association qui s'appelle Helsinki Citizens Assembly. C'est un ONG qui travaille en Turquie et qui a en son sein un bureau d'aide légale pour les demandeurs d'asile. J'ai fait un stage de 4 mois là-bas. Puis les questions que tu vas me poser sur l'immigration en Turquie, je vais essayer de leur répondre à partir des observations que j'ai pu faire, des lectures que j'ai faites en Turquie et puis des discussions que j'ai eues avec les migrants. Mais tout ce que j'y expliquerai, c'est pas quelque chose d'exhaustif. Il y a forcément énormément de choses que je connais pas encore sur l'immigration en Turquie. Je vais essayer de vous expliquer un peu ce que j'essaie, quoi, ce que j'ai pu apprendre depuis à peu près un an en Turquie, à Istanbul.
D'accord. D'abord, merci beaucoup, Ceren. Mais la première question que j'aimerais te poser, c'est mais qui sont les immigrés en Turquie?
D'accord. Donc, c'est une question, tu dois t'en douter, c'est une question très large et très difficile à répondre parce que la Turquie, ça a été toujours, c'est surtout connu par l'Europe comme un pays d'émigration. C'est les migrants turcs qui partent par l'Europe, mais la Turquie, c'est un pays où qui a reçu beaucoup de migrants depuis de nombreuses années. Et c'est aussi un point de passage entre le monde riche et le monde pauvre. Et du coup, il y a toujours eu des moments. Ce qu'on peut, la Turquie a le soin un peu de l'immigration, un peu des pays qui sont autour de, qui sont frontaliers. Depuis les années 90, il y a l'immigration des ressortissants des pays de l'ex-Union soviétique, comme les Moldaves, il y a des Arméniens qui émigrent vers la Turquie aussi. Mais c'est une immigration qu'on appelle l'immigration tournante, en fait. C'est des gens qui viennent travailler en Turquie ou qui viennent faire du commerce, qui restent 15 jours et puis qui vont retourner. Il y a différents modes d'immigration, il y a différentes sources d'immigration, en fait, vers la Turquie. Il y a aussi beaucoup de demandeurs d'asile qui viennent d'Iran, de l'Irak, de l'Afghanistan, de Somalie, de Soudan. Il y a, je sais pas, on peut compter, je pense, plus d'une vingtaine de nationalités différentes. Et à chaque fois, avec des objectifs et des façons d'utiliser, c'est un mot un peu trop, d'avoir un autre objectif d'immigration vers la Turquie. Ça peut être le transit, tout passer vers l'Europe, ça peut être l'asile, ça peut être aussi une immigration tournante, le travail. Voilà.
Mais par exemple, les Africains que tu as dit qui arrivent en Turquie, ils arrivent par quelle route? Et après qu'ils sont arrivés en Turquie, s'ils vont partir encore, c'est quoi le trajet?
Moi, ce que j'ai entendu, en fait, quand j'ai discuté avec les migrants, j'ai discuté surtout avec des migrants africains francophones, donc de l'Afrique de l'Ouest, surtout comme la Mauritanie, Sénégal, mais aussi j'ai pas mal discuté avec des Congolais. Il y a une communauté pas très nombreuse, mais assez importante de Congolais à Istanbul. Quand j'ai discuté avec eux, ce qu'ils me disaient, il y a beaucoup de personnes qui partaient de Libye, en fait, avec les passeurs, avec des bateaux. Et ce que les bateaux, ils font, c'est ils s'approchent des côtes italiennes, ils essayent de débarquer, de faire descendre les migrants ici. Quand ils voient qu'il y a beaucoup de contrôles, ils changent de route, ils essayent la Grèce, et si ça marche pas, ils les amènent en Turquie. Et pendant ce temps-là, les migrants, ils sont dans le bateau, ils sont au sous-sol ou dans un endroit qui est complètement fermé où ils voient rien. Ils passent à peu près un mois, 3 semaines, ça dépend des cargaisons.
Dans les bateaux,
sans savoir où ils sont, s'ils sont à côté des côtes italiens, grecs, turcs ou pas. Et enfin, ils se retrouvent en Turquie. Il y a des trajets par la terre aussi. Et ces trajets-là, c'est en général, c'est une filière qu'ils appellent Libye, Syrie, Turquie. c'est vers le sud de la Turquie qu'ils passent. Mais là, ça, là, je parle seulement des Africains, les Somaliens, les Soudanais aussi, ils utilisent cette route. Et apparemment, pardon, je crois qu'ils utilisent cette route-là, donc qui arrive vers le sud de la Turquie. Mais il y a énormément de réfugiés iraniens en Turquie, irakiens aussi et des Afghans. Et ben, c'est des frontières est de la Turquie et eux ils passent par les frontières est, par l'Iran. Turquie a une frontière avec l'Iran. Voilà.
Et quand ils vont partir encore, ils arrivent en Turquie, ils vont laisser la Turquie et aller vers l'Europe, faire quoi?
Quand ils arrivent en Turquie, en fait, la Turquie a des facilités de visa pour plusieurs pays. Par exemple, les Iraniens, ils peuvent demander, ils n'ont pas d'obligation de visa pour rentrer en Turquie, bien ils peuvent juste demander le visa à la frontière. Donc c'est très facile pour eux d'obtenir le visa, donc d'entrer légalement en Turquie. Mais il y a beaucoup de migrants qui souhaitent, je pense, passer en Europe et ne pas rester en Turquie. Et ces migrants-là, soit ils utilisent les réseaux de passeurs, ils font appel aux réseaux de passeurs pour passer en Europe, soit par les îles grecques, soit par la frontière grecque au nord de la Turquie, au nord-ouest de la Turquie, ou bien par la frontière bulgare. Il y a aussi un autre trajet, ça part du sud de la Turquie, de la région proche de la Syrie. Et le but, c'est de passer dans la partie grecque de Chypre, en fait. Voilà, il y a différents trajets comme ça. Mais les gens, quand ils arrivent en Turquie, s'ils sont entrés également, une fois que leur visa, la durée de validité de leur visa a dépassé, ils deviennent illégaux en Turquie et là ils font face à ils peuvent être emprisonnés, ils peuvent être mis en détention. Bien, il y a des personnes qui demandent l'asile en Turquie. C'est toute une autre procédure assez compliquée.
Maintenant on parle de ça, mais à la frontière avec la Bulgarie et la Grèce, à la frontière avec l'Union européenne, et ça arrive quoi? Qu'est-ce qui arrive? D'accord. À qui essaye de la traverser illégalement.
Donc, moi j'ai pu discuter des migrants qui ont essayé de passer en Grèce ou par la Bulgarie. Ce qu'on connaît pas énormément de choses sur ce qui se passe exactement sous la frontière, mais moi je sais que du côté turc, dans une ville qui est très proche de la frontière grecque, à Edirne, et dans une ville qui est très proche, à 10 km de la frontière bulgare, à Kırklareli, il y a deux grands camps de rétention. En général, les migrants qui sont arrêtés à la frontière là, qui essayent de traverser la frontière, ils sont amenés dans ces camps-là et ils sont détenus de manière sans une durée limite de détention, en fait. Ça n'existe pas. Parce que en Turquie, je vais te dire exactement ce que c'est. En Turquie, il n'y a pas une législation qui traite directement de l'entrée et du séjour des étrangers. C'est des petits bouts de loi, en fait, qui sont des articles de loi qui sont un peu dispersés dans différentes lois. Il y a la loi sur le passeport. La loi sur le passeport, par exemple, c'est sortir de Turquie sans passeport et peut être puni par une amende et en plus 3 mois de prison. Entrer sans visa et sans passeport en Turquie peut avoir une punition. Je ne sais pas si on ne dit pas punition, mais enfin, le truc. De 1 à 6 mois, puis après expulsion. Donc voilà, les migrants qui tentent de sortir de la Turquie, ils peuvent être emprisonnés normalement jusqu'à 3 mois. Ils dépassent largement cette durée-là. Ils sont emprisonnés parfois 6 mois, 7 mois, 8 mois, ça dépend.
Mais comment ça a changé? Et depuis quand on a commencé à parler de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, les politiques sur l'asile et l'immigration en Turquie, ils ont changé?
Ils ont changé En fait, la Turquie dans les années 90 a eu un gouvernement assez, un gouvernement de droite, et il y a eu un monsieur qui s'appelle Turgut Özal qui était premier ministre et qui est devenu après président de la République. Et c'est sous ce gouvernement, il y a les politiques libéraux. Il y a eu une libéralisation de la Turquie, il y a eu beaucoup de privatisation, des subventions à l'exportation, des choses comme ça. C'est un gouvernement qui a défendu le libéralisme et qui a introduit le libéralisme en Turquie. Et au niveau des politiques d'immigration, on voit la même chose. Pour que les relations commerciales de la Turquie développent avec les pays frontaliers, un régime de visa très souple a été mis en place à cette période-là, au milieu des années 90. Donc, l'obligation de visa pour les ressortissants de certains pays ont été supprimées, comme le Maroc, Tunisie, aussi l'Iran, Moldavie aussi, je crois. Et en plus de ça, il y a eu cette pratique de visa banderole, donc la possibilité d'obtenir un visa à la frontière ou dans l'aéroport turc. Vous arrivez à Istanbul, à l'aéroport d'Atatürk, et vous demandez votre visa pour entrer en Turquie. Donc c'était dans une perspective de développement des relations commerciales par la mobilité des personnes. Au niveau de l'asile, la Turquie selon les données officielles, entre les années 80 et 2000, la Turquie a accueilli à peu près 1 million de demandeurs d'asile, mais c'est des chiffres officiels, on ne sait pas. Aussi, il faut dire qu'il y a eu, par exemple, en 93, je crois, non, plus tard, je ne sais plus, il y a eu des Turcs de Bulgarie, 300 000 Turcs de Bulgarie, qui sont arrivés en Turquie et qui ont été installés en Turquie. Par exemple, ces 300 000 personnes comptent dans le 1 million, dans le chiffre de millions donné par les autorités. Aussi, il y a eu la guerre de Golfe, il y a eu beaucoup de réfugiés irakiens aussi en ce moment-là. Mais malgré ces flux de réfugiés qui arrivent en Turquie, la Turquie, jusqu'à 1996, n'avait pas de loi sur l'asile. C'est en 1996 qu'ils vont mettre en place un règlement, comme un décret, pas une loi, quoi, en dessous de la loi, je ne sais plus comment on dit exactement. Jusqu'en 1996, donc il n'y a pas du tout de texte législatif sur l'asile. Elle est seulement, par contre, la Turquie est signataire de la Convention de Genève relative au statut de réfugié. Il y avait seulement ce texte international au niveau de l'asile. Mais la Turquie a signé la Convention de Genève avec une clause de limitation géographique qui fait qu'elle n'accepte que les demandes des réfugiés qui viennent des pays d'Europe, en fait, des ressortissants européens. Ce qui fait que, donc, il n'y a personne qui vient de l'Europe pour demander l'asile en Turquie. Donc, ça, la Turquie, au niveau légal, au niveau juridique, n'a pas de responsabilité en ce qui concerne l'asile. Elle n'accepte pas les ressortissants des pays non européens, mais il leur autorise de faire leur demande ASR en Turquie et de résider légalement en Turquie pendant la durée de la procédure. Mais en même temps, elle demande aux demandeurs d'asile qui ont fait donc leur demande auprès de ASR de s'inscrire, de s'enregistrer en fait auprès des autorités turques aussi. Et de fait, elle crée une procédure parallèle. Pour l'asile en Turquie, il y a deux procédures. Quand vous êtes demandeur d'asile, vous demandez l'asile à ASR et l'asile à l'État turc. L'asile temporaire à l'État turc pour pouvoir résider en Turquie légalement le temps de la demande de ASR. Et la condition de...
Mais ça arrive maintenant.
Ah oui, tu m'avais posé la... Excuse-moi, Sandra. Ça, c'est quelque chose qui était toujours en cours, mais c'est à partir de 96 que la manière, la procédure a été vraiment précisée avec ce circulaire-là. Cette double procédure et la responsabilité de l'État turc des autorités
populaires. La restriction géographique de la Convention de Genève, c'était avant ou après
la restriction,
les 96?
Elle existe toujours, la clause de limitation géographique, elle existe toujours. Elle accepte toujours pas d'accorder le statut de réfugié aux personnes qui proviennent des pays non européens.
Et ces millions de réfugiés que tu disais?
Il y avait eu des réinstallations en fait. Ils étaient accueillis en Turquie pendant un certain temps, puis envoyés vers des pays tiers en fait. C'était là, ils entraient dans la procédure de réinstallation de HCR. Ou bien, mais c'est assez compliqué parce qu'on ne sait pas, par exemple, il y a des Tchétchènes en Turquie, des réfugiés tchétchènes qui vivent à Istanbul, il y a un camp tchétchène, le gouvernement turc ne leur octroie pas le statut de réfugié, pourtant ils devraient parce que c'est des Européens. Donc la limitation de géographique ne marche pas pour les Tchétchènes, mais le gouvernement turc ne leur octroie pas le statut de réfugié, ne les fait pas entrer dans la procédure d'asile. Ils sont seulement autorisés, tolérés, en fait, leur présence est tolérée en Turquie. On leur donne des permis de séjour de 6 mois, mais ça crée des situations très précaires parce que il faut qu'ils payent pour obtenir le permis de séjour, par exemple. Ils n'ont pas tous les droits sociaux, donc c'est des situations super compliquées. Mais la Turquie, elle ne veut même pas octroyer l'asile à des demandeurs d'asile qui a des réfugiés qui viennent d'Europe.
Et alors, on a une situation avec une très grande difficulté à obtenir l'asile politique, ouais, en Turquie, mais il y avait une très grande liberté d'arriver en Turquie et d'habiter là avec les visas.
Il y a des facilités pour entrer en Turquie, en fait, à cause de cette politique de visa et à cause du fait que la Turquie a des frontières très, très, très larges et très accidentées.
Mais quelque chose a changé dans les dernières périodes avec le fait que maintenant la Turquie et l'Union européenne sont en train de parler de l'adhésion, de la future adhésion de la Turquie à l'Union européenne.
Mm-hmm. En fait, c'est politique de cette politique de visa souple et la non-responsabilité pour l'asile, tout ça c'est en train de changer actuellement depuis le début des années 2000 en fait, là où l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne devient un peu plus palpable, un peu plus concret avec le début officiel des négociations en 2003. La Turquie se voit imposer des politiques au niveau de l'asile et de l'immigration. Et l'Europe a plusieurs exigences en fait. Principalement, il y a deux exigences de l'Europe. C'est la lutte contre l'immigration illégale avec renforcement de frontières, renforcement du contrôle des frontières, l'harmonisation du régime de visa turc avec le régime de visa Schengen, donc adoption de la liste négative et positive de Schengen. La création des centres de détention, des choses comme ça. Et deuxième objectif, deuxième exigence de l'Europe, c'est au niveau de l'asile. L'Europe veut que la Turquie supprime la clause de limitation géographique et devient un pays d'asile. Mais toutes ces exigences-là ne sont pas forcément acceptées par la Turquie. La Turquie, elle est pas sûre de son adhésion. Elle sait pas dans quelles conditions elle va être admise au sein de l'Union européenne. Est-ce que ça va être un partenariat privilégié ou pas? Est-ce que ça va être un État membre à part entière? En même temps, elle voit pas les fonds européens arriver pour le renforcement du contrôle des frontières, pour toutes les dépenses qu'ils vont devoir faire pour créer ce mécanisme de contrôle de l'immigration. Et aussi pour mettre en place la procédure d'asile conforme aux normes européennes et internationales. Donc la Turquie est assez réticente sur certains sujets. Par contre, d'un autre côté, elle veut montrer qu'elle fait des efforts dans ce sens-là, qu'elle veut montrer qu'elle essaie de se conformer aux exigences de l'Europe en matière d'asile et d'immigration. Les autorités turques, ils ont adopté un plan d'action national pour l'adoption de l'acquis en matière d'asile et d'immigration en 2005. Et ce texte-là, en fait, c'est un texte de 30 pages à peu près, qui définit de manière très détaillée toutes les réformes législatives et institutionnelles que la Turquie doit faire pour se conformer, pour adopter l'acquis, et aussi ce que la Turquie a besoin pour pouvoir ça au niveau financier, au niveau de la formation du personnel, des policiers, tout ça. Donc c'est un peu ce plan d'action qui nous montre la politique d'asile et d'immigration de la Turquie dans les prochaines années à venir. Et on voit que la Turquie préfère attendre. Il y a eu des sujets, par exemple, comme des réformes qui ont été réalisées en Turquie sous la pression européenne, par exemple l'abolition de la peine de mort, la reconnaissance des droits des minorités, mais ces choses-là, même si on a l'impression que c'est sous la pression européenne qui ont été faites, ça s'est passé très vite en fait. Dès que l'Europe a demandé, la Turquie a accepté, l'abolition de la peine de mort a eu lieu, le droit des minorités a été reconnu, mais parce qu'il y avait des dynamiques en Turquie qui travaillaient déjà, des mouvements sociaux qui avaient des revendications dans ce sens-là. Mais au niveau de l'asile et l'immigration, la Turquie ne répond pas tout de suite, ne fait pas tout de suite ce que l'Europe lui demande en fait. Elle préfère attendre parce que l'enjeu est beaucoup plus grand ici. Je veux dire, l'enjeu est beaucoup plus grand. La Turquie ne veut pas devenir une zone tampon, une zone en contrôle, une zone tampon pour l'Europe, quoi, où les migrants vont s'installer. Elle aussi, en fait, c'est de la logique d'État, entre guillemets. L'Europe veut se protéger, mais la Turquie veut se protéger aussi. Et du coup, ils essayent de... la Turquie attend, fait monter un peu les enchères, en quelque sorte.
Tu parlais avant des centres de rétention qu'il existe déjà en Turquie. Mm-hmm. Mais quand ils ont été créés en Turquie?
Exactement quand ils ont été créés, franchement, je ne sais pas. Il y a en fait.
Mais ils ne sont pas liés à l'adhésion à l'Union européenne. Il y avait déjà avant.
Non. La création de ces centres-là, c'est l'une des exigences c'est pour pouvoir se conformer aux exigences de l'Union que ça a été créé, ces centres-là, pour pouvoir contrôler en fait les migrants en Turquie, il faut faire comme les autres États, donc enfermement et l'assignation à résidence, c'est les deux principaux moyens de contrôle des migrants dans quasiment tous les pays aujourd'hui. Et la Turquie, elle fait ça aussi malheureusement.
Et avec les demandeurs d'asile, ils sont retenus?
Les demandeurs d'asile, en principe, ils ne doivent pas être retenus, mais ils sont détenus parfois. Il y a un système, j'avais expliqué, donc il y a une procédure parallèle avec HCR et les autorités turques pour l'asile. Les autorités turques demandent aux demandeurs d'asile, aux réfugiés, de résider dans les villes, dans certaines villes de l'Anatolie, qui sont loin des frontières, qui sont des villes assez petites. Donc ils autorisent pas à résider dans les grandes métropoles où en général les migrants ils vivent. Pour plusieurs raisons, parce qu'il y a plus de possibilités d'emploi, parce que c'est proche des frontières avec l'Europe et tout ça. Donc les demandeurs d'asile, ils sont assignés à résidence dans des villes qu'on appelle les villes satellites, et ils doivent pointer à la police quelques fois par semaine ou dans certaines villes tous les jours. Ils doivent demander l'autorisation de quitter la ville pour pouvoir, par exemple, se rendre à Ankara, voir HCR et tout ça. Donc, vraiment, c'est...
Mais ce n'est pas créé exactement pour eux?
Non. Okay. C'est pas à ce point-là. Heureusement, c'est pas à ce point-là. C'est des villes.
Normalement.
C'est des villes comme, je sais pas, Venise, Florence. Et dans ces villes-là, on leur demande d'habiter. On va leur dire, tu vas habiter à Venise. Vous allez habiter là-bas.
La réaction de la population de ces villes satellites?
Moi, j'ai été dans une ville satellite deux fois et j'ai discuté avec les migrants là-bas et j'avais discuté aussi sur les réactions de la population. Au début, c'est variable, quoi. Ils se plaignaient beaucoup. Ils se plaignaient beaucoup des réactions des gens. Ils les trouvaient racistes. C'était des Africains avec qui je discutais. Ils disaient qu'ils étaient toujours suspectés de voler quelque chose, des regards pas très corrects, des insultes des fois, des choses comme ça, ils subissaient. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une exclusion aussi de la part de la population turque qui ne comprend pas d'où viennent ces gens-là, pourquoi ils viennent, pourquoi ils sont là. Et surtout, donc, comme j'ai dit, je travaillais avec un ONG et j'avais été dans cette ville satellite avec un ONG. Et la réaction des gens quand on leur disait, voilà, nous, on fait du conseil juridique pour les demandeurs d'asile, donc ils disaient, mais il y a plein de gens à aider, plein de trucs à aider, pourquoi vous aidez des étrangers?
C'est la même chose en Italie, je crois, malheureusement.
Nous, on est déjà assez pauvres, pourquoi vous ne vous aidez pas nos pauvres, mais les pauvres des autres, voilà. C'est ça un peu la...
Et dans les côtés des les accords de réadmission avec les autres pays, et avec les pays tiers, échanger quelque chose avec, sur la pression de l'Union européenne ou pas?
Oui, en fait, l'Union européenne incite la Turquie à signer des accords de réadmission, mais aussi à signer un accord de réadmission avec l'Union. Il y a eu un accord de réadmission entre l'Union européenne et la Turquie qui est en négociation depuis 2002, mais la Turquie ne veut toujours pas signer cet accord de réadmission. Je pense qu'elle aussi, elle attend de pouvoir signer les accords de réadmission avec les pays sources ou de transit d'où proviennent les migrants en Turquie, d'où viennent les migrants, pour qu'il y ait un équilibre, pour ne pas devenir cette zone tampon, cette zone de buffer zone, ils appellent ça, je crois en anglais. Ben, jusqu'à maintenant, entre 2002 et 2005, la Turquie a signé des accords de réadmission avec la Grèce, la Roumanie, Kirghizistan, Syrie et Géorgie. Il y a des accords de réadmission en négociation entre la Turquie et Bulgarie, Russie, Libye, Liban, Macédoine, Italie, Sri Lanka, Ukraine et Moldavie. Donc, l'Union européenne félicite la Turquie assez souvent de sa capacité à signer des accords de réadmission et d'avoir commencé les négociations, mais demande aussi à ce que l'accord de réadmission entre l'Union européenne et la Turquie soit accéléré et que ça aboutisse au plus vite.
D'accord. Mais les dernières deux questions. La première, c'est si tu remarques qu'il y a quelque chose de pareil à ce qu'il arrive en Italie avec les immigrés, en exploitation de le travail des immigrés quand ils sont irréguliers et leur en liaison entre le fait qu'ils sont tenus dans un état d'illégalité et le fait qu'ils sont plus facilement exploitables dans cette situation-là. Si ça arrive aussi en Turquie, s'il y a ou pas beaucoup d'immigrés qui travaillent dans les marchés noirs.
Oui, je ne sais pas si la question se pose de la même manière en Italie et en Turquie. Parce que quand toi tu parles de ça, tu prends le fait qu'il y a des immigrés légaux. En Turquie, c'est pour devenir migrant légal en Turquie, c'est très difficile et il n'y a pas une traduction d'immigration légale comme ça. En Italie, il y a eu un peu plus que chez nous, je crois. En Turquie, il y a un marché, le marché informel, c'est à Istanbul, c'est 40% de la totalité des emplois. Et en Turquie, en général, c'est 60% le marché informel. Donc,
il y a plein de Turcs qui travaillent.
Il y a plein de Turcs, mais ça n'empêche pas que les formes d'exploitation des migrants soient beaucoup plus dures et beaucoup plus... Oui, beaucoup plus dur que celle des Turcs qui travaillent dans le secteur informel en Turquie. le secteur informel, pour les Turcs, en fait, il y a, même s'il n'y a pas de contrat qui régule les relations entre l'employeur et l'employé, il y a d'autres modes de régulation. Par exemple, c'est les liens familiaux qui vont réguler. C'est les liens, le fait de faire partie d'une même région, d'être originaire d'un même village. C'est à partir des relations beaucoup plus... Ça va être d'autres formes de régulation que les formes de régulation juridique. Mais quand il s'agit des migrants et leur introduction sur le marché informel en Turquie, il n'y a non seulement pas de protection avec une loi, et en plus de ça, il n'y a pas toute cette relation d'amis, de voisinage, de famille, de groupe ethnique ou quoi que ce soit qui va réguler les relations. Donc ils sont beaucoup plus ouverts à l'exploitation là. Et c'est des choses très fréquentes qu'à Istanbul, par exemple, des migrants qui travaillent ne soient pas payés par des employeurs. Au bout d'un mois de travail, on le paye, on le paye pas. Voilà. C'est ça la différence, en fait. Si vous embauchez quelqu'un de votre famille, que vous êtes turc, vous embauchez quelqu'un de votre famille dans le secteur informel, ça va être difficile de lui dire « je te paye pas ». Mais un migrant africain qui vient d'Afrique et vous savez qu'il est seul, il n'a aucun droit au niveau juridique, en plus aucune personne qui peut le soutenir, c'est très facile de lui dire « je te paye pas ». Donc c'est des pauvres qui exploitent d'autres pauvres, encore plus pauvres, avec des relations de... discrimination avec tes...
Et alors, la question consequentielle, que c'est aussi la dernière question que je te pose, c'est mais les niveaux de racisme, de xénophobie en Turquie et contre les immigrés. Et il y a du racisme, de la xénophobie contre les immigrés. Et s'il y a, si ça est changé avec la nouvelle perspective européenne de la Turquie.
Si tu demandes à quelqu'un dans la rue, si tu l'arrêtes dans la rue en Turquie, à Istanbul par exemple, et tu demandes est-ce que tu crois que les Turcs sont racistes, il va te dire non, pas du tout, on n'est pas du tout raciste. La conception du racisme est différente en Turquie, c'est bizarre en fait. C'est comme on n'a pas eu un passé de colonial, tu vois, on n'a jamais colonisé un pays, tous ces rapports de domination n'ont pas été installés. Donc, comme en France, par exemple. Moi, j'ai plutôt la France comme repère. Mais je pense qu'il y a énormément de préjugés pour les étrangers en Turquie, comme dans tout État-nation. C'est très fort. Et je pense que c'est très difficile pour les... C'est difficile d'émettre une avis très général sur le racisme comme ça d'un pays. C'est pour ça que j'ai du mal, mais vu ce que les Africains ils vivent...
Il y a des réactions à l'exploitation ou à la violation du droit des immigrés ou à les centres de rétention. Il y a quelqu'un qui dit ça ne marche pas. Il y a des oppositions politiques à les politiques migratoires.
Il n'y a pas d'opposition, mais c'est ça le problème. Quoi. En Turquie, l'immigration n'a jamais été une priorité de l'État. Et ça n'a jamais été un sujet de débat légitime. On n'a jamais discuté de l'immigration. Du coup, c'est aussi difficile que des mouvements d'opposition se créent. C'est un sujet qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Il y a des Africains à Istanbul, ah bon, ok. Il y a des Moldaves à Istanbul, ah bon. Ça n'intéresse personne, en fait. Il y a très peu d'ONG qui travaillent dans le domaine de l'immigration. Les hommes politiques, ils en parlent quasiment jamais. Les lois comme le règlement, les choses comme ça passe. Mais c'est un sujet très peu médiatisé et qui préoccupe très peu la société turque, en fait.
Alors, il n'y a pas la médiatisation de l'immigration, les problèmes de sécurité liés à l'immigration. Il n'y a pas de tout ça.
Si par moment, moi j'ai vu des articles qui criminalisaient les migrants, les Nigériens font de la trafic de drogue à Istanbul, des choses comme ça. Il y a surtout des informations, ce qu'on voit dans les médias, c'est voilà les migrants qui se font arrêter en essayant d'entrer sur le territoire turc ou en essayant de sortir. Et en fait, on voit les termes utilisés, c'est des clandestins sans arrêt. On ne se demande pas s'il s'agit des réfugiés ou pas. Donc, le fait de nommer les migrants déjà clandestins, ça veut dire quelque chose et ça stigmatise cette population-là et ça montre les préjugés négatifs qui existent sur les migrants. Mais comme c'est présenté toujours comme une population destinée à partir vers l'Europe et donc qui n'est pas censée s'établir en Turquie, la réaction de la population vis-à-vis de cette immigration-là est plus... est plus moins dur, je pense. Parce que c'est pas comme en Europe où on pense qu'ils vont rester, ils vont nous prendre nos boulots, des choses comme ça. On pense qu'ils vont passer. Donc, c'est des clandestins, c'est pas bien qu'ils soient là, qu'ils viennent ici, qu'ils entrent en Turquie illégalement, mais ils vont partir. Donc, le rapport n'est pas du tout pareil qu'en Italie, je pense.
D'accord, merci. Je vais répondre.